Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie de vous revoir. Je crois que ça fait un certain temps que nous n'avons plus été dans cette église. Donc, saluons vraiment dans le nom du Seigneur Jésus. Et merci pour cette invitation à partager la parole de Dieu. Alors, pour information en ce qui me concerne, nous rentrons en troisième et dernière année de l'Institut biblique de Nogent. Il paraît que c'est l'année la plus difficile pour ceux qui connaissent un peu l'Institut, mais nous comptons sur le renouvellement des forces qu'accorde notre Seigneur, parce que sans lui nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Et nous recommandons aussi à vos prières pour prier dans ce sens, que cette année puisse bien se passer et surtout que le Seigneur puisse préparer déjà un ministère après nos études. En tout cas, merci aux frères d'avoir déjà prié pour ce message. Et il a tout à l'heure évoqué cette liberté que nous avons dans un pays comme la France de pouvoir vivre notre foi assez librement. Donc, et si vous regardez les actualités ces derniers temps, il est beaucoup question de la situation au Proche-Orient, des chrétiens qui sont persécutés. Et l'avancée, la menace de ce qu'ils appellent l'État islamique. Et donc face à cette situation, nous, dans le monde occidental, il y a une certaine réaction, indignation. Et les États-Unis interviennent militairement en bombardant, et la France aussi, je crois, va intervenir par des frappes aériennes. Mais la question qui se pose, c'est au niveau des chrétiens d'Occident, dont nous faisons partie, ceux qui ont encore le privilège de vivre leur foi librement, quel est le rôle que nous devrions jouer? Alors il y a certaines personnes qui se sentent, certaines églises qui se sentent poussées à agir de manière vraiment pratique. On envoie des dons, on parraine des familles, on accueille des familles de réfugiés, etc. Mais il semble quand même que la chose la plus importante à faire, avant toute chose, c'est de se mettre à genoux et de prier. Peut-être que nous ne connaissons pas toujours, c'est une question que je pose à chacun d'entre nous, est-ce que nous connaissons l'impact, justement, de la prière dans ce monde dans lequel nous vivons? Est-ce qu'en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée des croyants, nous mesurons l'importance de la prière communautaire? Est-ce que nos prières, d'après vous, d'après nous, peuvent changer quelque chose dans ce monde? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là. Et est-ce qu'une église donc peut changer la face du monde? Est-ce que c'est une utopie que d'affirmer cela? Ou est-ce que ça peut être la réalité? Alors pour essayer de répondre à cette question, je vous invite à lire 1 Timothée, donc chapitre 2, versets 1 à 8, qui est affiché là. Donc c'est... l'épître de Paul à Timothée. Timothée, c'est le nom de ce jeune homme auquel l'apôtre Paul éprouve une affection particulière. Il le considère comme son fils spirituel. Et Timothée a une grande tâche, la tâche de poursuivre justement l'œuvre de l'apôtre Paul, de garder le bon dépôt, c'est-à-dire de garder intacte la sainte doctrine qui a été transmise. Et il a aussi, Timothée, cette responsabilité de prendre soin de l'église d'Éphèse. Et dans cette première épître, l'apôtre Paul donne des instructions précises, pratiques, sur la manière de diriger le culte public. Et donc voici ce qu'il dit. J'exhorte donc, alors je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme version, ça sera peut-être légèrement différent de ce qu'il y a là, mais... ça veut dire la même chose. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens, dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Alors vous avez certainement compris, noté dans ce passage, qu'il est beaucoup question de prière, et notamment donc de prière communautaire, c'est-à-dire de prière dans le cadre d'une communauté, dans le cadre de l'Église. Et justement, donc, c'est le thème d'aujourd'hui, comme il a été rappelé par notre frère tout à l'heure, la place de la prière dans l'Église. Alors, quelle est la place que l'Église devrait donner à la prière? Quelle est la place donnée à la prière pendant notre culte, le dimanche, ou pendant les études bibliques, ou pendant les réunions de jeunes, ou aussi pendant les assemblées générales? Tout ça, ce sont des activités dans le cadre de l'Église. Et quelle est la place de la prière? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. À Madagascar est un pays qui est très religieux et beaucoup d'églises sont remplies le dimanche. Et c'est d'ailleurs assez surprenant. Il y a un contraste avec un pays comme la France. À Madagascar, les gens le dimanche matin, ils sont bien endimanchés dans leur manière de s'habiller, la Bible à la main, et ils vont direction les églises. Et quand on leur pose la question, où allez-vous? Ils disent pas je vais à l'église, ils disent je vais prier. Bon, c'est une manière culturelle de s'exprimer, certes, mais une expression significative de ce que devrait être l'activité première, la vocation première de l'Église, c'est-à-dire prier. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit « J'encourage donc avant tout ». Ici dans ma version, c'est « Je recommande en tout premier lieu ». Il y a une insistance sur le caractère prioritaire de la prière en communauté. Et Paul considère l'Église comme une maison de prière avant tout. Nous avions visité il y a un peu plus d'un an une église dans laquelle la moyenne d'âge était de 70-75 ans. Une église dans le département de la Vienne, là-bas. Et donc vous rentrez dans cette église, il n'y a que des gens avec les dos courbés par l'âge. Et nous qui venions d'une église, à Madagascar en tout cas, une église je dirais assez jeune, entre guillemets, au niveau de l'âge, un peu comme la vôtre, j'avais quelques préjugés, je me disais, est-ce que c'est une église viable, entre guillemets? Est-ce que c'est une église dynamique, une église avec des vieux, comme on dit? Mais j'ai vite, très vite changé d'avis. Parce que j'ai constaté que dans cette église, il y avait quelque chose en plus. Que beaucoup d'églises jeunes n'ont pas forcément. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ils passaient la majeure partie de leur temps à prier. Ils priaient pour la mission, en France ou dans le monde. Ils priaient pour la conversion de gens. Ils priaient pour les autorités, pour le gouvernement en France, pour beaucoup de choses. Et plus récemment, au mois d'août, pendant tout le mois d'août, nous étions dans une église à Orthez, dans une église évangélique libre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler de cette église. Mais là, pareil, des gens âgés, 70-75 ans de moyenne d'âge, la plupart éprouvés par la maladie, par diverses épreuves. Mais, voilà, il y avait une demi-heure avant chaque culte, le dimanche matin, une réunion de prière avec un groupe de personnes fidèles qui priaient pour la paix dans le monde, pour les malades, pour la conversion des gens. Mais là, pareil. Alors, ils n'ont plus la force physique pour une campagne d'évangélisation musclée ou pour faire du porte-à-porte pour distribuer des tracts ou des traités. Mais ils avaient une régularité, une fidélité dans le ministère de la prière. Et là, ça me fait penser que c'est une erreur que de négliger le ministère de personnes âgées dans l'Église. Chacun, je pense que notre Seigneur nous appelle à servir à tout âge, en fonction de nos possibilités, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, mais avec la force que nous avons. Et à cette question, donc, quelle est la place de la prière dans une église? C'est la meilleure place. La réponse, c'est la première place. Moi, je peux vous dire que j'ai parfois assisté à des cultes, à des réunions d'église, dans lesquelles les moments de prière étaient relégués au deuxième plan. Je sais que ce n'est pas le cas ici à Saint-Maur. Mais il y avait des réunions où la prière n'avait pas vraiment une place prépondérante. On commençait tout de suite par chanter, message, etc., exhortation. Mais des fois, la prière était un peu négligée. Première place de la prière. Paul dit « en tout premier lieu ». C'est significatif. Alors, quel genre de prière? Au verset 1, Paul énumère tout type de prières possibles et imaginables que l'Église peut formuler. Demandes, des prières, des supplications, des remerciements, donc des prières de reconnaissance, etc. Mais nous voyons qu'au verset 2, il y a une forme de prière qui semble être particulièrement soulignée par l'apôtre, et c'est cette prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est une prière qui consiste à effectuer auprès de Dieu une demande de faveur particulière envers quelqu'un. Vous connaissez certainement des prières d'intercession remarquables dans la Bible. On peut citer celle d'Abraham, qui a intercédé auprès de la population de Sodome et Gomorre. Il y a également les multiples intercessions de Moïse envers le peuple d'Israël pendant qu'il était dans le désert. Bien entendu, il y a aussi cette intercession, l'intercession par excellence du Seigneur Jésus-Christ, l'exemple le plus parfait de l'intercession. Il a intercédé pour le salut des coupables, en s'offrant lui-même comme victime pour expier leurs péchés. Donc dans ce passage, il y a un accent particulier donc sur l'intercession. Alors, intercéder, donc, d'accord, mais pour qui? Nous venons de voir que intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un. Et là, il s'agit d'intercéder pour le salut de tous les hommes, et notamment des autorités. Verset 1, verset 2, Paul affirme sans ambiguïté qu'il faut prier pour tous les hommes, notamment pour ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont une position supérieure, qui occupent les hautes sphères de la société. Et pourtant, à l'époque où l'apôtre Paul a écrit cette lettre, il y a une domination d'un empire qui est l'Empire romain. Une puissance dominante, et vraisemblablement l'empereur qui était en place s'appelait Néron. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un homme connu pour sa folie, sa cruauté, son hostilité vis-à-vis de la communauté chrétienne à l'époque. Et dans un contexte aussi difficile, il est assez frappant de voir que Paul n'hésite pas, lui qui a connu les affres de la prison, qui a connu la persécution, qui a connu même des tortures. Il était victime du gouvernement de son époque. Mais Paul, sans rancune, appelle à prier pour de telles autorités. Il sait que les autorités sont là par la volonté de Dieu. Il recommande à ce qu'on prie pour tous les hommes, à commencer par ceux qui détiennent le pouvoir. Je ne sais pas s'il est arrivé dans nos églises de prier régulièrement pour François Hollande, par exemple. Moi, j'avoue que ça m'arrive pas très souvent de le faire. Mais on peut aussi prier pour les autorités dans notre société, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Moi-même, il m'est arrivé dans ma vie professionnelle d'être sous la responsabilité d'un directeur particulièrement indélicat qui m'avait fait beaucoup de mal, beaucoup de coups bas. Et malgré cela, j'avais pris la décision avec... On avait un groupe de prière quand on habitait à Grenoble, et j'avais apporté ce problème vraiment au niveau de ce groupe de prière, et nous avons prié ensemble pour cet homme. Et moi, je peux vous dire que Dieu m'a permis de le considérer comme une personne que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Mais avant cela, j'aurais jamais pensé, quand j'étais sous sous les coups, entre guillemets, de ce directeur, je ne pensais pas une seule seconde à prier pour lui. À la question « pour qui doit-on prier ?», donc la réponse est « pour tous les hommes ». Sans distinction de race, ni de religion, ni de rang social, etc., etc. Alors pourquoi prier ? Ça aussi c'est une question qu'on peut se poser. Eh bien tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. On se plaint souvent de ne pas connaître la volonté de Dieu. Ah, je ne sais pas ce que Dieu veut dans notre vie, dans ma vie ou dans l'église. Mais au moins, il y a quelque chose dont nous pouvons être sûrs. Prier pour tous les hommes est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, comme il est dit dans ce verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, prier pour tous les hommes. Autrement dit, si nous prions pour tous les hommes, nous faisons une activité que Dieu agrée, que Dieu accepte, dont Dieu est d'accord, qu'il apprécie. Et surtout, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc prions. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un gouvernement soit sur le point de voter une loi qui est contraire à l'éthique chrétienne avant de prier. Bon, vous connaissez certainement l'année dernière cette grande polémique sur le mariage pour tous. Là, les églises se sont mobilisées pour prier. C'est vrai, il faut prier. Mais il ne faut pas attendre. Il faut prier régulièrement. La mission de l'Église est de prier avant tout pour que les hommes et les femmes qui constituent aussi les autorités soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au verset 2, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, avec un parfait attachement à Dieu. Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? Ça veut dire que nos prières peuvent contribuer à la paix dans notre pays, pour que nous puissions vivre de manière paisible. Et pourquoi pas à la paix dans le monde ? Et là, je pense qu'il y a quelque chose de remarquable. Ça veut dire donc que les prières peuvent contribuer à faire basculer des orientations politiques, peut-être à changer le cours de l'histoire d'un pays. Et surtout, Dieu se sert de nos prières pour sauver des hommes. Ça veut dire que par la prière, on peut atteindre tout le monde, sans exception. Ceux qui sont loin de nous, géographiquement, ceux qui paraissent inaccessibles à cause de leur rang social. Et par la prière, donc, ce que nous pensons être comme impossible peut devenir possible. On se dit, ah, c'est pas la peine de prier. Si, c'est la peine de prier. Dieu nous le demande, c'est sa volonté. Et quelque part, je dirais même que nos prières sont des actes révolutionnaires. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties et qui ont su par la suite qu'il y avait un groupe de personnes qui priaient pour sa conversion, pour leur conversion, des années et des années avant. Il y a des personnes, moi je connais l'histoire de ce jeune homme qui s'est converti et qui a su par la suite que sa grand-mère, qui était déjà décédée au moment de sa conversion, n'arrêtait pas de prier pour lui. Il paraîtrait que la chute du mur de Berlin en 1989 ait été le fruit des prières incessantes, inlassables, de beaucoup d'intercesseurs en Allemagne. Notamment d'un pasteur, peut-être vous avez entendu parler du pasteur Führer. Il réunissait régulièrement des personnes pour prier inlassablement en faveur de l'unité de l'Allemagne. Certains disent pourtant que prier pour le salut des hommes relève de la paresse. Et que prier pour le salut, donc, est le fait de gens qui sont incapables ou inactifs, qui sont paresseux, qui n'ont pas envie de lever le petit doigt pour s'engager physiquement au service des autres. Mais prier, frères et sœurs, c'est un combat. Prier, c'est une lutte. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a passé beaucoup de temps à prier pour ses disciples, beaucoup de temps à prier pour nous aussi, pour l'Église. Regardez dans Jean chapitre 17, cette prière sacerdotale. On n'oserait pas traiter notre Seigneur de paresseux, n'est-ce pas ? Il y a certes le temps pour l'action, où il faut se lever, il faut sortir, il faut annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent. Bien sûr, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais il y a un temps qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est le temps de la prière. Et ici, il est question de la prière pour tous les hommes. Alors, de temps en temps, dans certaines églises, on essaie de culpabiliser ceux qui n'ont pas forcément la force de sortir pour annoncer l'Évangile, de faire des étages pour distribuer des traités. Mais peut-être qu'ils ont la force de prier. Et il faut les encourager à prier. Et nous avons donc, en tant qu'Église, une grande responsabilité. La prière. Parce que nos prières peuvent sauver quelqu'un. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Un message donc, qui a le message du salut, qui a une portée universelle. Et Paul souligne cette affirmation comme pour mettre en garde contre cette tentation de prier uniquement pour celles et ceux qu'on juge dignes d'être sauvés. Par exemple, on écarte peut-être qu'on écarte d'emblée de nos prières les meurtriers de sang-froid, certaines catégories de personnes, ceux qui tuent, qui torturent, qui violent. Et pourtant, le désir de Dieu est que tous soient sauvés. Alors comment ? Qui sommes-nous pour estimer que telle catégorie de personnes ne mérite pas le salut, alors que Dieu lui-même veut sauver tous les hommes ? Moi, c'est vrai que quand j'entends des informations de gens qui violent des mineurs, ma première réaction, c'est pas de dire « Seigneur, aie pitié d'eux ». Ma première réaction, c'est de dire qu'il faut les enfermer. Et des fois, je me dis même, c'est dommage que la peine de mort n'existe plus. C'est une réaction humaine. Mais le désir de Dieu est de sauver tous les hommes. La parole de Dieu dit que il ne veut pas la mort du méchant. Au contraire, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, il souhaite que le méchant se repente et vive. Donc personne n'est-il accessible à l'amour de Dieu. Personne n'est indigne de l'amour de Dieu. Parce que son désir est de sauver tous les hommes. Et que Dieu tient compte de notre intercession, de nos prières, pour accorder le salut à tous les hommes. Du verset 5 au verset 7, il y a un petit rappel que fait Paul. Il rappelle que la seule personne par qui le salut est possible, c'est Jésus-Christ. Il associe pleinement le salut à l'œuvre de Christ pour affirmer que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul chemin. Et en quelques mots, donc, il laisse entendre que l'homme ne peut se sauver lui-même de son péché, mais que le salut n'a été rendu possible que par le paiement d'une rançon. Et cette rançon, c'est Jésus-Christ. Alors c'est un peu comme si Paul disait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et pour cela, il a déjà pourvu la solution. Il a sacrifié son Fils unique. Qui pensait que le salut était encore réservé aux seuls juifs. Donc là, il y a encore cette volonté de Paul de souligner l'universalité du salut. Ce n'est plus seulement pour les juifs, c'est aussi pour les non-juifs, pour tous les peuples. Alors, la prière dans l'église au verset 8, comment, où, quelle forme ? Paul affirme que nous pouvons prier dans n'importe quel lieu où nous pouvons nous rassembler. Il donne des indications sur l'attitude de la prière en communauté. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Alors, l'accent n'est pas mis sur le comportement, je dirais, extérieur, mais plutôt sur les dispositions intérieures des hommes. Il est vrai qu'avant, les Juifs avaient, dans leur rite, l'habitude de se laver les mains avant de faire plusieurs choses, avant de manger, avant de prier. Et donc, Paul, il y a une allusion justement à ce rite-là. Mais ce qu'il veut, surtout, c'est une attitude de cœur. Plus une attitude de cœur que l'état, je dirais, de propreté, c'est plus une question d'attitude de cœur que d'hygiène, j'allais dire. Hein. Prier, oui, mais avec des motivations sincères, avec des pensées qui ne sont pas corrompues. une église qui prie alors qu'il y a des dissensions, des rivalités, des jalousies, c'est une église qui prie de manière vaine. Paul parle de prier sans colère, ni arrière-pensée. Dans ma version, j'ai ni dispute. Une fois, il m'est arrivé d'assister à une assemblée générale, une église. Je suppose que ça existe aussi ici à l'église de Saint-Maur. Arrive la question du budget. Et c'est une question qui souvent divise. Et là, il y avait, plus particulièrement ce jour-là, cette assemblée générale-là, il y a eu vraiment des échanges verbaux. C'est tout juste si on n'est pas passé à des échanges de coups. Non, j'exagère un peu. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une telle tension dans l'église. Le budget n'a pas été voté, enfin, il y avait des mots échangés, très très durs. Et il fallait bien finir la réunion. Donc, celui qui présidait la réunion, un peu gêné, dit on va passer un petit temps dans la prière pour terminer, que chacun se sente libre d'élever sa voix. Je peux vous dire que c'était une atmosphère glaciale. Des prières, quelqu'un qui se hasardait quand même à prier, mais que ça sonnait tellement faux que... on est sorti de cette assemblée générale, le cœur un peu gros. Est-ce que des prières comme cela sont agréées par le Seigneur ? Sincèrement, je pense que, en se basant sur ce passage, je me permets d'émettre des doutes. Donc, sans colère ni esprit de dispute, il est important que l'Église puisse être d'accord, puisse être unie, puisse avoir cette communion d'esprit, la même vision de l'Église. Bien sûr, on n'est pas forcément toujours d'accord sur des points, mais il ne faut pas que cela puisse entraver, la bonne entente, la communion fraternelle. Parce que sinon, il y a des impacts négatifs au niveau de l'efficacité de notre prière communautaire. Alors, j'arrive à la fin du message pour essayer de répondre à la question « Est-ce que l'Église peut changer la face du monde ?» J'avais posé cette question en début de message. Moi, je me risquerais à répondre « Oui !» Mais avec un petit « mais » peut-être. « Oui, mais... » Oui, d'abord, parce que l'Église peut faire, d'après cette parole que nous avons lue, l'Église peut faire basculer le cours de l'histoire d'un pays. Oui, l'Église peut changer la face du monde. Oui, l'Église peut contribuer à changer le cœur d'un homme pour le sauver. Alors ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment la parole qui nous l'affirme. Alors j'ai dit oui, mais le mais, c'est quelle est la place de la prière justement dans l'Église ? Donc oui, mais seulement en donnant une première place à la prière. Oui, mais seulement en mettant la prière, l'intercession en tête de toutes les activités. D'abord, la prière. C'est Paul qui le dit dans la parole. Avant toute chose, en tout premier lieu, faire des requêtes, prier, intercéder. Donc le rôle de l'Église, c'est avant toute chose de prier. Et que nous puissions être interpellés par ce message cet après-midi, que... Il nous aide à prendre conscience de notre responsabilité, de notre rôle, de notre vocation en tant qu'Église, c'est-à-dire d'être une maison de prière avant toute chose. Et pour terminer, j'aimerais simplement laisser une phrase que j'ai remarquée sur la couverture d'un DVD. Je ne sais pas si vous connaissez ce DVD « Envie de prier ». Peut-être l'avez-vous déjà vu. Il y avait une phrase qui était écrite, et elle est toujours d'ailleurs, qui dit « Une Église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde ». Une Église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, ce message que nous avons entendu aujourd'hui. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur, notre responsabilité en tant qu'Église de prier. Puisque tu veux, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tu nous demandes dans ta prière de prier pour tous les hommes. Seigneur, que nous puissions prendre cette résolution, si nous ne l'avons pas faite avant, vraiment de nous engager donc à prier pour tous les hommes, à prier pour les autorités qui nous gouvernent. C'est vrai, Seigneur, que des fois nous avons Peut-être que nous rechignons des fois à prier parce que nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle orientation de ceux qui sont au pouvoir. Mais Seigneur, s'ils sont là, c'est par ta volonté, c'est toi qui les as mis là. Et aide-nous, Seigneur, à prendre du temps dans notre église, dans notre communauté, de prier pour les autorités, de prier pour le salut des hommes, puisque tu nous le demandes. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.